Auditrices et auditeurs de la radio OxyWeb, c'est avec le plus grand plaisir que je vous rejoins aujourd'hui. Je vais vous présenter votre nouvelle émission appelée Estoria. Estoria vous parlera d'histoire et plus précisément de l'histoire de notre région et de notre pays. Pour cette première émission, nous allons nous intéresser à une période glorieuse du Midi toulousain. Certains d'entre vous l'auront deviné, aujourd'hui, je vais vous raconter comment une plante appelée pastel a fait à la fin du XVe siècle la richesse de notre région. Pourquoi et comment le Midi toulousain est-il devenu terra pastel? Et à la suite de cela, pourquoi a-t-il été appelé pays de cocagne? D'abord, qu'est-ce qu'un pays de cocagne? Eh bien, c'est une sorte de paradis terrestre, une contrée miraculeuse dont la nature déborde de générosité pour ses habitants et ses hôtes. On peut le définir comme un pays imaginaire où tout abonde. Le Midi toulousain est devenu ce pays de cocagne grâce au pastel, et cela pour des raisons géologiques et climatiques. Le pastel a besoin d'un sol riche et meuble, ce qui correspond parfaitement aux terres des collines de l'Albigeois et du Lauragais. De plus, le pastel a besoin d'un hiver relativement doux, d'un printemps doux et pluvieux, suivi d'un été chaud, conditions qui correspondent parfaitement à nos régions. Comment se présente le pastel des teinturiers, appelé également guêde? Le pastel est une plante herbacée bisannuelle. D'abord utilisée par les Grecs et les Romains de l'Antiquité comme plante médicinale, elle sera cultivée au cours du Moyen-Âge pour la production d'une teinture bleue extraite de ses feuilles. Son nom vulgaire vient du latin pasta, pâte, en occitan également pastel, car autrefois, les feuilles, d'Isatis tinctoria, c'est son nom savant, étaient broyées dans des moulins à pastel dont je vous parlerai plus tard. Ce broyage formait une pâte, ensuite fermentée et séchée. La floraison du pastel se fait en avril-juin. Et c'est ce pastel qui va faire l'objet de cette émission. Nous allons suivre l'aventure du pastel en Languedoc et voir comment il a amené la richesse dans notre région. Mais le pastel fit-il vraiment la richesse du Languedoc dès l'époque médiévale? On ne peut pas dire oui, mais certainement le pastel y participa grandement. Il est courant de définir la fin du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle comme l'âge d'or toulousain. Cette fortune est liée à la culture et au commerce du pastel. Certains historiens vont même jusqu'à donner des dates très précises concernant cette époque. Pour eux, cette période s'étendrait du grand incendie de Toulouse en 1463 et irait jusqu'à la guerre civile qui a vu s'affronter catholiques et protestants en 1562. On peut donc dire que cet âge d'or a duré un siècle. Et on peut estimer que l'apparition du pastel dans le Midi toulousain date de 1463. Mais en réalité, je vous l'ai dit, le pastel existait déjà et il était apparu dans nos régions au XIIe siècle. Il est venu probablement dans les chariots de commerçants qui revenaient d'Orient ou d'Espagne. Les paysans du Lauragais et de l'Albigeois vont développer sa culture, car le bleu produit par le pastel est indélébile. C'est un produit très recherché, et donc il va devenir une source non négligeable de revenus. Mais alors apparaissent vite des problèmes de commercialisation. Je vous l'ai dit, teinture d'excellente qualité, le pastel ne peut être appliqué qu'à des tissus de grande qualité. Regardons la production locale de l'époque. Oh, on fait bien du drap dans la région délimitée par Toulouse, Foix, Limoux et Carcassonne. Mais cette production n'est pas de grande qualité et ne peut surtout pas rivaliser avec les tissus anglais ou flamands. Nous nous trouvons alors devant la production d'une excellente teinture que l'on ne peut pas utiliser sur place. Problème. Il faut donc l'exporter, mais ce n'est pas simple à l'époque. Le commerce du pastel au XIVe siècle va commencer à se développer non pas à Toulouse, c'est à Albi, qui est le plus grand centre pastelier de l'époque, et c'est ici que les marchands viennent acheter la teinture. Il est à remarquer qu'on ne va pas démarcher le client, on attend qu'il vienne. Et plus tard, à Toulouse, on fera pareil. Au XIVe siècle, la plaque tournante du commerce du pastel se trouve donc à Albi. Les chemins commerciaux se mettent en place afin d'expédier les coques de pastel dans toutes les directions. Je parle de coque, mais qu'est-ce qu'on appelle coque ? Eh bien, les feuilles de pastel écrasées, comme je vous l'ai dit, sous des meules, produisent une pulpe verdâtre qui, après séchage, va former des boules. On va former des boules qu'on appelle des coques. Donc, revenons à notre commercialisation. Pour aller vers le nord, les coques de pastel sont acheminées par Carmaux en direction de l'Auvergne, du Lyonnais et du nord de la France. Pour aller vers le sud, les marchands partent vers Narbonne et de là, par bateau, les coques de pastel sont envoyées vers la Provence ou l'Espagne. Au début, le commerce principal est trusté, je pourrais dire, par des marchands béarnais installés pour la plupart à Orthès. Une partie des récoltes, donc de notre région, sont dirigées vers Tarbes, Oloron et le col du Saint-Port, et de là, acheminées vers l'Espagne. Cependant, la partie la plus importante va gagner le port de Bayonne. Et ce sera dirigé vers l'Angleterre et les Flandres. Par exemple, j'ai sous les yeux une note qui rapporte que du 8 novembre 1403 au 21 mars 1404, les 13 navires sont arrivés à Bristol chargés de pastel, dont 9 venaient de Bayonne et 4 de Bordeaux. La cargaison apportée au total correspondait à 156 tonneaux de pastel. Par la suite, le commerce du pastel apparaît à Toulouse à partir du début du XVe siècle. La teinture au pastel connaît un succès grandissant auprès des marchands espagnols, anglais et flamands. Ils arrivent en masse pour l'acheter, mais là, il y a un nouveau problème. Les marchands albigeois ou béarnais manquent de capitaux. Or, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour arriver à tenir le coup. Le montage financier est extrêmement complexe. Le paysan cultive le pastel, mais ce n'est pas lui qui fera la teinture. Les feuilles de pastel sont achetées par un collecteur sur de petits marchés locaux. Ces collecteurs, eux, possèdent un ou plusieurs moulins et c'est eux qui vont procéder à la préparation de la teinture. Mais la teinture faite, ce n'est pas eux qui vont la commercialiser. Ils la remettent à un marchand avec qui ils sont en affaires et qui souvent l'a déjà achetée sur pied même, avant la cueillette. C'est là déjà le problème. Pour être sûr d'avoir une quantité suffisante de teinture, le marchand s'engage très tôt auprès du collecteur sans savoir quelle va être la qualité de la récolte, sa quantité et si un orage ne va pas tout détruire. Il paie très tôt un pastel aléatoire dont il touchera le produit de la vente que plusieurs années après. Car le pastel est transporté par exemple vers Bayonne, puis de Bayonne expédié vers l'étranger où il sera vendu. Ben, il n'y a pas, comme aujourd'hui, entre la région de Toulouse et les grands comptoirs européens, de moyens de communication performants, et il n'y a pas encore Internet. À Londres ou à Anvers, le correspondant qui va recevoir le pastel, disons qu'il sera en charge de le commercialiser, ignore la qualité et la quantité de la récolte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Va-t-il vraiment défendre les intérêts du marchand ? Ne défendra-t-il pas davantage le client avec qui il fait des affaires régulièrement ? Ou tout simplement, n'aura-t-il pas tendance à se remplir les poches au détriment du marchand ? Mais, prenons le meilleur des cas, tout se passe bien. Nouveau problème. Le vendeur a vendu le pastel, mais il ne peut envoyer l'argent au marchand qu'il lui avait envoyé du fait des longues distances, du manque de numéraire, de l'insécurité de l'époque, car à l'époque, les virements bancaires n'existaient pas. Que va faire donc notre vendeur ? Il va établir une lettre de change qui va encore allonger les délais, car Lyon, en France, est la seule place où les lettres de change peuvent être payées. On comprend bien que le marchand de pastel doit avoir les reins très solides pour faire ce commerce. Après la croisade contre les cathares, épisode que nous raconterons une fois prochaine, Toulouse, à la mort du comte Raymond VI, a été rattachée au domaine royal. La ville a retrouvé sa richesse qui était due essentiellement à la meunerie et à l'industrie d'armement. Elle est devenue la seule place bancaire importante de la région. Banquiers, changeurs sont nombreux sur Toulouse. Et ils sont en relation avec une autre place financière importante, Montpellier. Les banquiers montpelliérains, qui seront bientôt rejoints par des banquiers lyonnais, vont mettre des capitaux très importants à disposition des Toulousains. Toulouse devient alors la place tournante du marché du pastel. Et voilà comment nous sommes arrivés maintenant à ce que l'on appelle l'âge d'or. Cet âge d'or commence au milieu du XVe siècle, comme nous l'avons dit, au moment où je suis de ma narration. Les producteurs de la région se lancent alors dans l'exportation du pastel. Ce commerce va connaître un essor extraordinaire dans un triangle d'or situé entre Carcassonne, Albi et Toulouse. On compte plus de 800 moulins pasteliers. Les marchands se lancent dans ce commerce avec vigueur et vont faire d'immenses fortunes. Ils deviendront capitouls au Parlement de Toulouse et se feront bâtir de somptueux Hôtel Renaissance. Nous allons pour aujourd'hui laisser nos négociants à leur commerce et à leur plan d'avenir. Nous les retrouverons lors de la prochaine émission sur OxyWeb. Chers auditeurs, à très bientôt.